Alors, est-ce qu'il est nécessaire que je redonne le charisme de la garde d'honneur? C'est des visages que vous préférez, ouais. Alors, je reprends donc le charisme. Alors, surtout, ne le compliquons pas. Donc, c'est tout simple. Ils sont, en tout cas, le Seigneur veut que ce soit simple. Et donc, de prendre, on choisit une heure tous les jours. C'est la même heure. Et à cette heure-là, on la démarre par la prière d'offrande, c'est-à-dire qu'en esprit, on se branche, entre guillemets, sur le cœur de Jésus présent à l'Eucharistie, donc à un tabernacle. Et puis on dit simplement à Jésus que, alors il y a la prière type, mais qui son contenu c'est de vivre et d'offrir tout ce qu'on va faire pendant cette heure pour consoler son cœur de nos péchés et de l'ingratitude des hommes. De l'oubli, voilà, aujourd'hui, qui pour beaucoup n'existe pas, et ou plus. Et voilà, alors, l'oublier n'est pas un péché, on supplée au moment où on y pense. Il existe aussi une deuxième heure, mais pour avoir la possibilité de faire la deuxième heure, il faut au moins faire la première. Ce qu'on appelle la deuxième, c'est l'heure de miséricorde. Donc c'est Sœur Marie du Sacré-Cœur, hein, la fondatrice de la garde d'honneur, qui avait reçu ça dans la prière. Et du coup, elle avait, ça lui a demandé bien des souffrances pour que ce soit accepté. Et cette deuxième heure, elle est faite toujours dans la même démarche que la première, mais cette fois pour la conversion d'une personne, d'un groupe de personnes ou un pays. Alors l'inscription, c'est moi qui l'a fait aussi. Elle est faite donc à Paray-le-Monial et le cadran se trouve à Paray-le-Monial. Hein, autant le cadran de l'heure de présence se trouve ici, mais le cadran de la miséricorde se trouve à Paray-le-Monial. Donc, mais alors il faut faire déjà la première, mais qui est vécue de la même manière. Alors comme j'aime à dire, c'est comment dirais-je, voilà, cette attention amoureuse pendant toute une heure. Alors c'est sûr qu'il va y avoir des dérangements qui seront bien sûr voulus par Jésus, par le cœur de Jésus, donc vous ne pourrez pas penser de façon continue à sa présence. C'est pas grave, le fait de l'avoir démarré cette heure par la prière d'offrande, elle est offerte, même si vous ne pensez pas aux 10 minutes avec lesquelles vous allez discuter avec un voisin, par exemple, c'est pas grave, Jésus, vous lui avez dit que toute l'heure lui était offerte, donc voilà, à moins d'une grâce particulière, on ne peut pas penser toute une heure sans interruption, sans Jésus, tout en travaillant, hein. Tout en faisant, voilà. Ça, donc oui, j'aime à dire que cette heure, quand on la passe en présence de Jésus, en faisant des petites œillades au cœur de Jésus, il nous change. Hein. C'est un petit peu, on se colle à lui, sa vie passe en nous, et petit à petit, on pense pas pareil, on voit pas pareil. Et donc c'est vrai que c'est l'école de sainteté indolore, on va dire. Le fait de nous décentrer de nous-mêmes, c'est-à-dire que de s'occuper de lui dans ce qu'on va faire, fait qu'il va prendre la place qu'on lui laisse quand on regarde, quand on le regarde, quand on fait par exemple les courses, quand on va à son travail. Voilà. Alors le choix de l'heure, beaucoup des enfants qui sont à la garde d'honneur, quand ils la démarrent, ils disent « moi j'ai choisi l'heure la plus difficile ». Alors que nous adultes, c'est un critère complètement différent, c'est moi je prends l'heure où je serai sûre de ne pas l'oublier. Donc souvent c'est l'heure où je vais à la prière ou à la messe. Mais c'est justement pas la bonne heure parce que la démarche du cœur de Jésus en demandant l'heure de garde à Sœur Marie du Sacré-Cœur, c'était d'occuper, enfin, de sanctifier notre travail. Quand vous êtes à la prière, vous pensez à Jésus. Enfin, tant que vous pouvez en tout cas. Par contre, quand on fait les courses, quand on va au travail, quand on fait la cuisine, eh bien, là souvent, on s'occupe de nous-mêmes et on a dans nos têtes souvent nos propres soucis. Et là, Jésus dit, ben non, là, c'est à ce moment-là qu'il faut me l'offrir, quoi. Donc, le conseil, c'est quand même de choisir l'heure qui sera peut-être la plus difficile. Comme ça, Jésus vous aidera, là, les enfants. Jésus m'aidera à sortir du lit pour aller à l'école ou partir à l'école. Il y avait un petit qui avait mis son image de l'heure de présence sur son cartable. Et du coup, il partait à l'école avec Jésus. Je trouve ça, c'est à prendre dans notre besace, enfin, comme exemple. Hein. Voilà, alors... je pense avoir tout dit pour le charisme. Et du coup, pour cette... à moins qu'il y ait des questions, non, c'est bon, c'est clair. Donc, comme je vous l'avais dit la dernière fois, je vous proposais d'avancer cette année en étudiant les abîmes. Donc, l'abîme, hein, c'est le cœur de Jésus. Et en fonction des péchés qu'on peut commettre ou des imperfections ou des mauvaises habitudes dont on peut souffrir. Sainte Marguerite Marie, pardon, qui nous donnait cette spiritualité des abîmes, invitait ses novices à aller s'abîmer, donc se plonger dans le cœur de Jésus pour aller prendre, on va dire, la vertu inverse pour soigner, guérir et redresser la nôtre, notre amour déréglé. Alors là, vous pensez bien que demain, on est le premier dimanche de carême. Je me suis dit, tiens, enfin, dans ma prière, qu'est-ce que je pourrais leur donner? Et en même temps, j'ai eu une demande d'une d'entre vous de parler de la prière et entre autres de l'oraison, parce que c'est vrai que j'insiste de plus en plus sur le fait que pour être de zélés gardes d'honneur, je vous invite à faire oraison. Et c'est sûr que la personne m'interpellait en me disant « Mais est-ce que c'est obligatoire de faire oraison pour être garde d'honneur ?» Alors non, qu'on s'entende bien, on peut être garde d'honneur sans faire oraison tous les jours. Au contraire, ça ne fait pas partie des choses obligatoires pour être garde d'honneur. Ce qui est obligatoire pour être garde d'honneur, c'est de faire son heure de présence, ça tous les jours, et puis de vivre l'heure sainte chez soi ou au monastère. Donc c'est la prière réparatrice par excellence, l'heure sainte, et participer aussi, pas obligatoirement aux formations, mais au moins au week-end, où on fait venir un prédicateur pour donner qu'il ait du monde à l'écouter. Et puis aussi, c'est une occasion de renouveler notre engagement et de faire vivre la garde d'honneur. Mais c'est vrai que l'oraison n'est absolument pas obligatoire. Mais Sœur Marie du Sacré-Cœur Bernot, donc la fondatrice, disait en mourant qu'elle l'offrait sa vie pour qu'on soit de zélés gardes d'honneur. Et je tiens mon autre bout de la ficelle, qui est aujourd'hui, donc on commence le carême, et en général, on se donne tous, et l'Église nous y invite, en tout cas parce que la sainte quarantaine est un chemin de conversion, eh bien on se dit tous, qu'est-ce que je vais devoir changer, qu'est-ce que vous voulez Seigneur, de quoi vous voulez que je me prive? En général c'est comme ça qu'on envisage le carême. De quoi je dois me priver? Alors d'internet, de chocolat, voilà, on a tout ça qui nous arrive dans la tête. Et là moi dans ma prière, j'avais tout l'inverse. Pour une fois on ne va pas se priver nous de quelque chose, mais on ne va pas vous priver vous Jésus de quelque chose, c'est-à-dire de notre présence. Et l'oraison c'est ça, et ça peut être justement un exercice de carême pour la conversion, et ça rejoint aussi notre thème qui est l'abîme, c'est-à-dire le cœur de Jésus est aussi un abîme de prière. L'oraison c'est participer, c'est laisser Jésus prier en nous, son Père. Et pourquoi j'insiste tant sur l'oraison, c'est connaître, pour pouvoir aller puiser dans le cœur de Jésus, pour pouvoir changer, on va dire, notre péché en vertu, il nous faut voir clair sur nous-mêmes. Et aujourd'hui, le monde qui vous entoure, on va dire, s'organise de manière à, en tout cas, met tout en œuvre, que ce soit le bruit, les images, même les faits divers sont bien choisis en général, et bien pour vous abrutir, pour vous faire tourner, enfin, surtout pour pas que vous entendiez ou que vous vous voyez là. Par contre, autant on va vous faire regarder dans votre sensibilité, dans la partie sensible, pour pouvoir justement acheter de façon intempestive tout ce qui est proposé. Par contre, on va bien vous empêcher par le bruit, les images, de descendre en profondeur dans votre cœur pour voir justement si l'attitude que vous venez d'avoir avec la voisine ou le voisin ou avec votre enfant était ajustée au commandement de Dieu. Et ça, je dirais, il n'y a que l'oraison, c'est-à-dire ce temps de silence, qu'on ne prend pas pour soi, qu'on prend pour Jésus. Donc il faut accepter en somme d'emblée d'y aller pour perdre son temps. Voilà. Alors, c'est pas la première fois, je m'excuse pour ceux qui connaissent et qui font raison, mais peut-être qu'ils apprendront quelque chose ou ils approfondiront quelque chose aujourd'hui. Alors souvent on nous dit oui, mais alors l'oraison, vous savez, moi j'ai une journée bien pleine, je me lève déjà tôt, Et puis ben, voilà, je dois emmener mes enfants, voilà, y a toute la part maison, l'entretien de la maison qui prend aussi beaucoup de temps, et puis je travaille, etc. etc. Alors ça, entièrement d'accord, et c'est vrai, faut pas croire, nous aussi au monastère, alors y a des plages horaires qui sont prévues pour la prière, mais si on n'éteignait pas notre téléphone et qu'on n'arrêtait pas non plus notre travail, vous savez, on n'irait pas non plus à la prière, on a de quoi s'occuper, hein. Donc c'est un réel rendez-vous, c'est quelque chose qu'on se fixe. Et puis pour ça, je vous lis une belle histoire, enfin, en tout cas un bel exemple pour prendre la décision et la bonne décision. Et comment mettre en place l'oraison. Donc c'est un fait que raconte le cardinal Sara dans son livre « Dieu ou rien ». Un jour, un vieux professeur fut engagé pour donner une formation sur la planification efficace de son temps à un groupe d'une quinzaine de dirigeants de grandes entreprises. Ce cours constituait l'un des 5 ateliers de leur journée de formation. Le vieux professeur n'avait donc qu'une heure. Debout, il regarde un par un, lentement, puis il leur dit « Nous allons réaliser une expérience. » De sous la table, le professeur sortit un immense pot de plusieurs lits qu'il posa délicatement en face de lui. Ensuite, il exhiba une douzaine de cailloux, à peu près gros comme des balles de tennis, et les plaça délicatement, un par un, dans le grand pot. Lorsque le pot fut rempli jusqu'au bord et qu'il fut impossible d'y ajouter un caillou de plus, il leva les yeux vers ses élèves et leur demanda « Est-ce que le pot est plein ?» Ben, on dirait bien comme eux, hein. On dit « Ben oui, il est plein, le pot, on ne peut pas en rajouter un. » Il attendit quelques secondes et ajouta « Vraiment ?» Alors il se pencha de nouveau et sortit de sous la table un récipient, cette fois rempli de gravier. Avec minutie, il versa ses graviers sur les gros cailloux, puis brassa légèrement le pot, les morceaux de gravier s'infiltrèrent entre les cailloux jusqu'au fond du pot. Le vieux professeur leva les yeux à nouveau sur son auditoire et redemanda « Est-ce que le pot est plein ?» Cette fois, ses brillants élèves commencèrent à comprendre son manège. L'un d'eux répondit « Probablement pas. » « Eh bien, répondit le vieux professeur, il se pencha de nouveau et cette fois-ci sortit de dessous la table. » Voilà, du sable. Il le versa dans le pot. Le sable alla remplir les espaces entre les gros cailloux et les graviers. Encore une fois, il demanda « Est-ce que le pot est plein ?» Cette fois, sans hésiter et en cœur, les élèves répondirent « Non. » « Bien, » répondit le vieux professeur. Et comme s'il attendait les élèves, il prit le pichet d'eau qui était sur la table et remplit le pot jusqu'à ras-bord. Le vieux professeur dit alors « Quelle grande vérité nous démontre cette expérience ?» Pafou, le plus audacieux des élèves, songeant au sujet du cours, répondit « Cela démontre que même lorsqu'on croit que notre agenda est complètement rempli, si l'on veut vraiment, on peut y ajouter plus de rendez-vous et plus de choses à faire. » « Non, répondit le vieux professeur, ce n'est pas cela. Et malheureusement, c'est ce qu'on fait. » Et on en arrive à un burn-out. Qui ne souffre pas de cette maladie ? La grande vérité que nous démontre cette expérience est la suivante. Si on ne met pas les gros cailloux en premier dans le pot, on ne pourra jamais les faire tous entrer ensuite. Il eut un profond silence et chacun prenant conscience de l'évidence de ses propos, le vieux professeur leur dit alors « Quels sont, et c'est ça la question qu'il nous faut nous poser, quels sont les gros cailloux dans notre vie ? Est-ce que c'est l'entretien de ma maison ? Moi, en fait, compte, mes loisirs. Ou est-ce que c'est la prière? Est-ce que c'est l'oraison? Est-ce que c'est le temps que je passe avec Jésus qui est pour moi le premier? Votre santé, votre famille, vos amis, vos rêves, votre carrière professionnelle. Aujourd'hui, je suis désolée, mesdames, mais comment dirais-je, on voit... des messieurs s'occuper des enfants pendant que la dame privilégie sa carrière professionnelle. Ce qu'il faut donc retenir, c'est l'importance de mettre les gros cailloux en premier dans sa vie, sinon on risque de ne pas la réussir. Si on demande la priorité Si on donne, pardon, la priorité au pacotille, le gravier, le sable, on remplira sa vie de futilité, de choses sans importance et sans valeur, et nous n'aurons plus de temps à consacrer aux éléments importants. Voilà, et c'est sûr que nos vies, alors moi je ne suis pas dans le jugement, hein, mais nos vies sont des fois remplies de choses qui nous paraissent utiles. Attention, il est important d'entretenir sa maison, il est important d'aller chercher tes enfants à l'école, etc., etc., mais même des réunions de famille. Mais je pense que c'est la grâce, en tout cas en début de carême, de se poser devant le Seigneur et dire, bah, Jésus, qu'est-ce qui est inutile et pourtant pour lequel je passe beaucoup de temps et qui peuvent justement prendre la place et bien de l'oraison. Et c'est sûr que si on démarre sa journée, parce qu'il faut éviter de faire son oraison quand même après le repas du déjeuner, enfin vers midi et demi, une heure, là, après que vous ayez pris votre déjeuner, parce que qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ben voilà, on fait, on va dire, l'oraison de Saint-Pierre, on dort, quoi. Mais voilà, quand on démarre sa journée par 20 minutes minimum, l'idéal c'est 30 minutes, mais déjà 20 minutes c'est bien, par l'oraison, c'est demander à Jésus de faire avec soi le reste de la journée. Donc c'est, de fait, il va falloir que vous arrêtiez de faire quelque chose et pour lequel vous preniez du temps et qui vous semblait important, en tout cas, ou utile. Et du coup, les autres tâches qui vont suivre, vous ne les ferez plus tout seul. Vous les ferez avec lui. Et du coup, ça peut donc sentir que je mets moins de temps. Alors, une petite histoire. J'étais novice, pour illustrer la chose. J'étais donc novice. Et puis, pendant le jeudi saint, je devais fleurir le reposoir. Et pendant la semaine sainte, on a plus d'oraison. Et on est en retraite, c'est la grande semaine, et on a le matin une demi-heure de plus. Et on avait beaucoup de fleurs, et je me disais, je ne vais jamais réussir avec le temps avant la cérémonie religieuse du soir à fleurir le reposoir avec le peu de temps, une demi-heure de moins, etc. Et donc je tournais dans ma tête. Et puis, en face, j'avais aussi une autre sœur qui, de la sacristie, qui elle se disait la même chose, avec tout le travail qu'elle avait à la sacristie, une demi-heure de moins, je ne vais jamais y arriver, etc. Donc, moi, de mon côté, je pose un acte de foi, je dis, ben non, Jésus, c'est la règle, je ne prends pas la demi-heure supplémentaire, je me dis que si je prends cette demi-heure d'oraison, vous allez m'aider et je fleurirai le reposoir plus vite. Voilà, tout en l'acte de foi, c'est pas sensible, hein. Donc je me dis, oui, j'espère que ça va le faire, mais bon, je tais en moi les paroles qui venaient me déranger, et de fait, j'ai donc réussi à faire le reposoir dans le temps. Je croise la sœur de la sacristie qui me dit, moi j'ai demandé la demi-heure et j'ai tout ce que j'ai fait, je l'ai raté. Et donc elle avait cassé ses bobèches, enfin rien n'allait quoi. Et donc ça lui a été une belle leçon. Hein. Elle s'est dit, il ne faut jamais prendre, alors elle avait récupéré son oraison, mais elle s'était dit, voilà, j'ai humainement pensé ma journée, mon travail. Hein. La prière, c'est pas des formules, hein. c'est Jésus qui s'engage dans ce qu'on va faire. C'est beaucoup plus. Donc voilà, alors je vous propose de voir avec vous cet abîme de prière, donc le cœur de Jésus, abîme de prière, donc l'oraison, pour que, déjà répondre à cette personne qui s'interroge sur le bienfait de l'oraison et pourquoi mettre l'oraison en place. Parce que je voulais aussi en profiter pour préciser que ces temps de formation, j'ai pas l'intention de vous apprendre plus ou moins quelque chose que vous ne connaissez pas. Ce temps-là est quand même un temps pour ceux et celles qui ont des questions sur leur vie, on va dire sur la vie intérieure, sur la vie spirituelle. C'est l'occasion, parce que je sais que vous en avez pas, il n'y a pas de sas en tout cas dans le monde pour le faire. Et la démarche de cette formation, c'est avant tout de nous entreporter, de nous, toujours pour correspondre à Sœur Marie du Sacré-Cœur, pour être de zélés garde d'honneur. C'est pour continuer de nourrir en soi cette vie intérieure. Donc si c'est ça l'objectif de la formation. Donc voilà. Alors, Saint François de Sales, en fondant la visitation, a voulu donner à Dieu des filles d'oraison. Donc une visitandine, elle est fille d'oraison. Et des âmes si intérieures qu'elle soit trouvée digne de servir sa majesté infinie et l'adorer en esprit et en vérité, laissant les grands ordres déjà établis dans l'Église, honorer notre Seigneur par d'excellents exercices et des vertus éclatantes. Je veux que mes filles n'aient autre prétention que de le glorifier par leur abaissement. Et notre Sainte Mère va écrire un tout petit traité, Sainte-Jeanne de Chantal. Et quand on prend dans... Moi, je sais que les premières pages, ça avait été ma réflexion sur le moment. Mystérieusement, il ne commence pas par... Ben voilà, l'explication de ce que c'est que l'oraison. Voilà, elle le commence autrement. Le premier avis pour l'oraison, c'est que l'âme qui veut la faire doit, si elle naît extraordinairement attirée et élevée à Dieu, se bien préparer, selon le dire du sage, avant l'oraison, prépare ton âme, pense où tu vas, à qui tu dois parler. Tant d'oraison mal faite ne provient que du défaut de préparation. Donc elle ne dit pas tout au début de son traité comment faire l'oraison, mais si vous voulez faire oraison, il y a une préparation. Et si c'est mal fait, voilà, la mauvaise oraison, elle vient de la mauvaise préparation. C'est qu'après qu'elle donne comment faire l'oraison. Alors, oraison du latin orare, action de parler. L'oraison est un entretien, une conversation de l'âme avec Dieu, un échange familier, j'insiste, familier avec la divine majesté, ou une élévation de l'esprit en Dieu. Si l'oraison est bien un échange, une conversation, un colloque de l'âme avec Dieu, par elle nous parlons donc à Dieu, et lui, Dieu, parle avec nous. C'est là qu'on pourra entendre, justement, de voir, à travers ce qu'il nous dira, nos défauts. Ne le désirons comme il nous désire. Nous sommes et vivons en lui comme il est et vit en nous. La conversation qui s'y tient avec Dieu est secrète. C'est un cœur à cœur entre l'âme et son Dieu. Ce qui se communique est incommunicable à tout autre. La langue des amants est si particulière qu'ils sont seuls à l'entendre. « Je dors et mon cœur veille, dit l'épouse du cantique, et voilà que mon bien-aimé me parle. » Qui aurait deviné que cette épouse pût converser avec son époux alors qu'elle était endormie? Là où règne l'amour, nul besoin de paroles extérieures, nul besoin des sens pour s'entretenir et se comprendre. Donc, pour résumer, l'oraison n'est autre chose qu'une conversation où l'âme s'entretient amoureusement, ça c'est important, avec Dieu de sa bonté tout aimable, afin de la rejoindre et s'unir à elle. L'oraison est la manne cachée, susceptible d'avoir tous les goûts et de donner une joie sans prix à ceux qui s'en nourrissent. Elle est secrète, elle se pratique dans la solitude de l'esprit et traite seule avec son Dieu. Ça, c'est tiré du traité de l'amour de Dieu, une saint fondateur. Alors, pour notre saint fondateur, il existe trois oraisons. L'oraison de contemplation, de quiétude. Alors, notre saint fondateur l'appelle aussi l'oraison de simple remise en Dieu. Alors, l'image, c'est Saint Jean reposant sur le cœur de Dieu. Voilà. On a réussi à taire tous les bruits dans sa tête, parce que ça, on va en parler. Eh bien, on est capable, voilà mon esprit, de poser, de se voir hein, sur le cœur de Jésus, comme un enfant d'amour, dit notre saint fondateur. Et puis, ben, voilà, on est là. Et puis, de temps en temps, mais pas nécessairement, une parole amoureuse qu'on dit à Jésus pour maintenir notre attention, pour reprendre conscience qu'on est devant lui. Et la deuxième, c'est ce qu'on appelle l'oraison mentale. La méditation nous fait imaginer les mystères du Christ. Soit la considération nous représente les vertus pour éveiller en nous des sentiments d'amour, d'affection à l'égard de Dieu ou des choses divines. Alors notre saint fondateur, il reprend la méthode jésuite, hein. Il nous propose d'abord de prendre conscience qu'on est devant Dieu, pas obligatoirement devant le Saint-Sacrement. L'oraison ne se fait pas obligatoirement et surtout pas on peut être en présence de Jésus, présence eucharistique, présence réelle, mais pas, c'est autre chose que l'adoration, l'oraison. Et donc voilà, on l'a fait en présence de Jésus, présent dans son Eucharistie au cœur. Mais si vous êtes chez vous dans votre oratoire, il n'y aura pas la présence réelle et on peut faire quand même oraison devant une icône et devant quelque chose qui vous parle, qui vous renvoie, en tout cas qui campe la présence du Christ. Et notre saint fondateur, donc déjà reprendre conscience de sa présence et puis de notre petitesse. Voilà, on n'est rien. Mais je vous le dis, on le sait comme ça en parole, mais on n'en est pas tous, en tout cas pas tous les jours, on n'en est pas si sûr que ça. Donc reprendre conscience qu'on n'est rien. Et puis après, soit on prend l'évangile du jour, qu'on entendra peut-être à la messe, ou celle du dimanche, ou, et notre saint fondateur conseille, l'évangile de la passion, qui est la plus facile à méditer. Parce qu'il va vous demander, et là vous allez être, comment dirais-je, vous allez monter en somme le scénario, entre guillemets, vous allez mettre en scène l'évangile que vous venez de lire. Vous allez camper l'histoire, vous mettez le décor. Alors, quand c'est la méditation sur la passion, c'est en somme facile, entre guillemets, de camper Jésus sur la croix, d'y voir les soldats, Marie-Madeleine, la Vierge, Saint-Jean, d'imaginer le cadre, les saintes femmes, et puis dans ce cadre-là, donc utiliser le sens qui est l'imagination pour camper cet évangile, et de vous y mettre dedans. Quelle place j'ai dans cet évangile? Est-ce que, je suis blottie au pied de la croix? Est-ce que je prends la place de Marie-Madeleine? Est-ce que je suis... est-ce que je suis parmi les bourreaux? Est-ce que je suis parmi la foule à crier « crucifie-le » Enfin, voilà. Où je me mets, quoi, hein? Ou est-ce que je vais simplement... me rendre compte que, en fait, j'ai pas de place dans la scène. Je sais pas où aller. Enfin, je sais pas où me mettre. Et ça dira quelque chose de notre prière, tout ça. Voilà. Et puis après, il y a un autre type d'oraison qui va nous rejoindre aussi dans notre engagement de garde honneur. C'est ce qu'on appelle l'oraison continuelle. Quand je vous ai dit, notre saint fondateur a voulu donner à l'Église des filles d'oraison. Alors moi, pour mon plus grand bonheur, ce serait de rester au cœur toute la journée. Mais ce n'est pas le cas. Et pourtant, je suis fille d'oraison. Donc, c'est-à-dire qu'entre les temps d'oraison où je retrouve la prière commune au cœur avec les sœurs, donc nous, on a 1h30 par jour d'oraison, et en retraite, on a 3h. Et après ces 1h30 d'oraison, eh bien, je tâche, dans mon travail, dans tout ce que je vais faire, de rester dans ce colloque amoureux avec Jésus. Donc, soit je l'alimente par des paroles, soit je l'alimente par des images. Alors c'est sûr que tous les travaux qui vont nous demander une attention, cérébrale, ça va être plus difficile. Mais comme je vous ai dit, l'oraison n'est pas un exercice de recherche de soi. C'est-à-dire on est dans l'oraison pour être à sa disposition. Je vous ai dit au début, on va faire un carême où on va pas se priver nous, mais on va pas priver Jésus de nous. Donc quand je suis, imaginons, à travailler à l'ordinateur, eh bien, c'est sûr, je lui demande de s'asseoir à côté de moi, de prendre mes mains, d'être à la place de ma tête et de me dire ce que j'ai à taper, ce que j'ai à penser. Et puis, par moments, je m'arrête et puis, je lui parle. Et c'est ça le colloque amoureux. Je crois que saint Paul dit qu'il vit en nous et à chaque Eucharistie, c'est ce qui se passe. Vous le recevez en vous. Maintenant, comment vous vivez de cette présence eucharistique en vous? Donc, c'est ça, l'oraison continuelle. C'est comment je vis avec celui à qui j'ai donné ma vie, que ce soit garde d'honneur, père de famille, mère de famille, célibataire ou religieuse. Je suis désolée, on lui a donné notre vie. En tout cas, le jour du baptême, et on a été marqué. On est sa propriété. Donc, comment je vais vivre cette oraison continuelle? Est-ce que c'est juste, parce que des fois je vous ai donné l'exemple, quand j'ouvre une porte, Jésus je t'aime, alors là, Jésus il va vous faire ouvrir beaucoup de portes pour qu'il entende des Jésus je t'aime, longueur de journée, mais s'il n'y a pas beaucoup de portes à ouvrir de la journée, comment vous allez justement ne pas le priver de votre présence, hein? Alors, notre sainte mère, voilà ce qu'elle dit. En quoi consiste la vraie oraison, et non pas à être toujours en un coin, en douceur et bien recueilli, Ce n'est pas cela que notre Seigneur regarde, mais le cœur. Et si nous sommes prêtes à laisser faire tout ce que l'on voudra de nous, l'âme qui peut dire en vérité qu'elle est toujours disposée à tout ce qu'on voudra et à ce qu'on lui commandera, peut dire aussi en vérité qu'elle est toujours en oraison. Il ne faut pas toujours être à genoux pour faire l'oraison. On la peut faire en pétrissant, en balayant. Ici, Saint Jean de Chantal parle de cette continuelle oraison, de cette continuelle union. Donc quand on veut être uni à quelqu'un, eh bien, on lui parle. On lui manifeste en tout cas qu'il est présent à notre côté. Comme je le disais donc au début du partage sur l'oraison, Saint François Sales voulait donner à Dieu des filles d'oraison. Et nous trouvons dans le directoire, donc chez nous c'est un petit ouvrage qui a été fait par notre Sainte Mère à la mort de notre Saint Fondateur et qui nous aide à dresser notre intention avant chacune de nos actions. Il dit au premier chapitre que toute leur vie et exercice soit pour s'unir avec Dieu, pour aider par prière et bons exemples la Sainte Église et le salut du prochain. Donc, ouais, c'est beau, hein? C'est-à-dire que tout ce qu'on va faire dans toute notre vie, tous nos exercices, tout ce que vous allez faire, même si vous n'êtes pas visitant en ligne, en tout cas, en étant garde d'honneur, vous bénéficiez de la spiritualité et de la visitation. Tout ce que vous allez faire, si vous le faites uni avec Jésus, dans ce dialogue bien, et on l'avait dit, hein, le colloque familier. Donc, on ne dérange pas Jésus juste pour une demande de guérison d'une maladie quelconque. C'est bien pour un dialogue familier. Donc voilà, ce qu'on fait au moment. Eh bien, vous allez, à travers cette union, aider la Sainte Église. Notre Saint Fondateur dit aussi réformer la Sainte Église et le salut du prochain. Donc cette fois, son champ d'action n'est plus le cœur ou votre oratoire, mais le travail, les relations, notre quotidien. Alors, c'est sûr que quand vous allez faire ces 20 minutes ou cette demi-heure du matin, quand il va falloir la quitter, ce temps d'oraison, ne jamais se mettre de notes. Jamais vous dire « Oh, je suis tout le temps partie, j'ai passé mon temps à penser à ce que j'allais faire après. » Ou j'ai, voilà, et là on va l'aborder, j'ai quelque chose qui m'habite dans ma tête et j'ai passé mon temps à me battre avec. Alors évidemment, quand vous allez quitter votre demi-heure d'oraison, vous allez dire, oh, j'ai perdu mon temps, j'ai même pas été capable de dire à Jésus que je l'aimais, j'ai passé mon temps à faire du tennis, quoi. Hein, j'ai rejeté. Non, c'est le piège. Dites-vous bien que vous dérangez quelqu'un si vous prenez 20 minutes si vous ne privez pas de votre présence Jésus, vous gênez quelqu'un. Parce que vous allez contribuer à la conversion de l'Église et au prochain. Donc je vous assure, il y a quelqu'un qui n'est pas très content pour ça. Donc il va faire quoi? Il va vous faire vous regarder. Et du coup, vous allez dire, j'ai pas été là, quoi. Alors bon, non, ça ne sert à rien. Attention, l'oraison ne vous sert pas, elle sert Jésus. Elle lui donne les moyens de vous montrer qui vous êtes, de vous connaître. Donc voilà un des pièges. Et puis, si on fait le petit exercice hein, de se mettre dans le silence, quand vous réussissez en tout cas à vous extraire de ce monde bruyant, eh bien, on se met donc dans le silence. Et souvent, on pense comme ça, je suis dans le silence. Et eh bien, si vous écoutez bien, en fait, c'est très difficile de faire silence en soi. On est mystérieusement, et comme il y a beaucoup de bruit à l'extérieur, on n'entend plus le bruit intérieur. Mais souvent, et c'est important de faire l'expérience, surtout pendant ce carême, de se mettre dans le silence extérieur pour pouvoir entendre le bruit intérieur, tout ce qui nous habite. Et quand on fait ça, on se rend compte que la remarque, par exemple, qu'un collègue m'a fait au travail, le retentissement dans la tête. Je me suis défendue moi-même, donc le murmure intérieur qui m'habite parce que je suis en train de me justifier de la remarque de mon collègue. Ou ma femme. Ou j'ai raté quelque chose dans mon travail et je m'en veux. Et du coup, je me parle à moi-même et j'entretiens comme ça des bruits. Hein. Alors, ça m'habite tellement. Et puis, ce qu'il y a derrière, c'est qu'on pense que plus je vais me parler à moi-même, parce que c'est quand même cette intention quand même de faire silence pour faire oraison, plus je vais essayer de régler le problème qui m'habite. Donc voilà, je m'embarque dans cette aventure et j'en suis donc persuadée que c'est moi qui va être capable de répondre justement au collègue qui vient me faire la remarque. Alors que la démarche qu'il faudrait faire, c'est pas alimenter la conversation intérieure, c'est se dire « tu n'es qu'un orgueilleux, tu n'es pas capable d'accueillir la remarque ». Voilà. Vous voyez, l'oraison est là pour nous montrer que ben, t'es rien, voilà. T'es pas capable d'accueillir une remarque. Hein. Si on est toujours dans le bruit, toujours sans prendre ce temps de silence avec Jésus, hein, de pas le priver de votre présence, ben, qu'est-ce qui se passe? Les jours se suivent les uns après les autres, les remarques aussi, parce que vous comme moi, on en a. Hein. Pas, alors, moi je dis, en tout cas dans la vie spirituelle, il est trop amoureux pour nous laisser sans remarque de notre voisin, de notre mari, de nos enfants, moi de ma supérieure, de mes sœurs. Pourquoi il est trop amoureux? Il n'y en aurait pas qu'il en ferait de toutes pièces des situations qui vous viennent chatouiller l'amour propre. Parce que c'est une place, la volonté propre, le jugement propre, qui prend celle de Jésus dans notre cœur, dans notre vie spirituelle. Donc elles sont nécessaires. Notre saint fondateur parle beaucoup du mystère de la providence. C'est très très présent dans ses écrits ainsi que notre sainte mère. C'est vraiment quelque chose qui est donné à la visitation et qui, à mon avis, aujourd'hui est à redécouvrir pour notre monde. Eh bien, tout est conduit par Dieu. Même le mal n'est certes pas voulu par Dieu. Hein. Moi, je dis pas permis, on dit voulu. Hein. Saint Thomas parle de vouloir de Dieu. Tout est voulu par Dieu et le mal, il s'en sert pour un plus grand bien. Rien, mais absolument rien, ne lui échappe. Donc, la remarque du collègue, quand ça vient vous piquer, faut s'arrêter et dire, non, Jésus, t'as voulu la remarque du collègue. C'est pas pourquoi il m'a fait cette remarque, non mais c'est pas regarder, enfin, moi je fais jamais de remarque et lui, il se gêne pas. Enfin, voilà, on connaît tous hein, ce petit discours qu'on se fait pour se dédouaner de sa responsabilité. En somme, pour ne pas descendre en soi et dire « Non, il y a quelque chose à... » Jésus, là, veut te montrer quelque chose de ton tempérament, de ce que tu es et qui veut changer. Voilà. Alors, je dirais que c'est la grâce hein, de cet abîme qui est le cœur de Jésus, de la prière, pour se connaître soi et être du coup être capable de se changer en fonction de cet écho qu'on va avoir de soi à travers le quotidien. Donc, c'est, je dirais, très très important de prendre conscience donc, de ce bruit qui nous occupe. Hein. Et, moi j'ajoute, hein, qui nous fatigue. Ces murmures intérieurs, ces conversations qu'on a avec soi-même, pas avec son ange gardien, mais avec soi-même, eh bien, nous épuisent. Et on a des fois des gens... on arrive à avoir des maux de tête. Hein. Alors moi j'ajoute derrière, on peut déclencher des maladies psychiatriques et on peut aussi appeler ce démon. Hein. On tourne sur soi-même. Hein. Alors c'est sûr que vous ne le trouverez pas dans les livres, hein, mais moi j'ai rencontré des personnes qui étaient dans un disque rayé, c'est-à-dire en permanence, elles étaient, on va dire... elles vivaient des choses douloureuses, un souci par exemple, et donc elles ont commencé à discuter avec elles-mêmes sur comment je vais régler ce souci. Et donc voilà, ça commence, on commence à en parler un petit peu, les nuits, on n'arrive plus à dormir, parce que même la nuit, on y pense, parce que c'est sûr qu'il y a des fois, on est des fois heurté par des situations qui sont très 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 difficiles, la nuit, on est occupé par ça, et on n'arrive plus à s'arrêter, parce qu'on est persuadé qu'en y pensant, on va réussir à trouver la solution. C'est l'inverse. Alors par contre, quand c'est commencé, on n'arrive plus à s'arrêter. Et doucement, mais sûrement, la personne se rend compte qu'elle n'arrive plus à être comprise par son entourage. Toutes les conversations, c'est que des quiproquos. Il y a un énervement parce qu'elle n'est plus en présence de Jésus. Elle est en présence d'elle-même. Et en présence d'elle-même, elle a ouvert la porte à quelqu'un qui s'appelle le démon. Et du coup, tout est faussé. Donc, la grâce, on va dire, ce que vous aurez, enfin, en tout cas, on aura tous, que ce soit religieuse ou laïque dans le monde, on aura toujours des soucis. Et plus ça va aller, plus on en aura. Donc, vraiment, la grâce de l'oraison, c'est de prendre du recul par rapport à ce qu'on vit et dire stop, c'est pas moi qui ai la solution. Prendre conscience que ce qui m'habite intéresse Jésus et qui peut s'en occuper parce que, mystère de la Providence, il l'a voulu. Il est à l'origine de mon souci. Hein? Combien on dit même des maladies graves, que dans la maladie, elles ont compris quelque chose que Jésus voulait leur dire qu'elles n'auraient pas compris s'il n'y avait pas eu la maladie. Et ça, c'est le mystère de chaque personne. C'est jamais Jésus me punit. Non, Jésus ne punit jamais. Mets-toi à mon école. C'est un maître d'école. Il nous apprend quoi ? L'humilité et la douceur. C'est deux plus chères vertus. Donc, et ça ne peut pas s'apprendre autrement qu'à son école. Et son école, c'est quoi ? Il partait tôt le matin sur la montagne prier son Père. Voilà. Et nous garde honneur, il nous est donné son cœur, ça veut dire cet abîme de prière. Donc prendre le temps devant quelque chose qui va me dérouter, parce qu'il y a enfin, je sais hein, que nous on est protégés hein, par déjà le flux d'informations qui vous abreuve. Nous on n'a pas tout ça et ça c'est une grâce. Mais voilà, ça c'est quand vous arrivez à la fin de la journée. Moi j'en entendais un d'entre vous qui me disait j'en arrive même à avoir mal au cerveau quoi. Et donc c'est une expression forte hein, pour dire tellement la sollicitation cérébrale était importante dans son travail. Et je me dis c'est une bénédiction d'être capable de s'arrêter 20 minutes devant Jésus pour dire à Jésus voilà, ça part dans tous les sens, mais dit notre sainte mère, revenir à cette présence amoureuse, Jésus je t'aime, ah ça y est, l'esprit va repartir, pensez au collègue qui m'a fait la remarque, non, hop, je reviens, je pose un acte d'amour et je redis à Jésus je t'aime, hop, je repense par exemple au dernier souci que j'ai rencontré avec ma femme, voilà, ça va partir dans tous les sens. Acceptez que ça tape, mais à chaque fois je reviens en posant un acte d'amour. Et quand vous aurez fait vos 20 minutes, vous direz à Jésus, j'ai fait la plus belle oraison. Je ne t'ai pas privé de ma présence. J'ai pâti, ça c'est sûr, c'est des oraisons de souffrance. C'est beaucoup plus douloureux que d'être là devant Jésus et de rien avoir dans la tête. Juste sa présence et puis voilà, on est là, Saint Jean reposant sur le cœur de Jésus, là c'est clair. C'est le paradis sur terre, hein, ça. Mais ce n'est pas donné tous les jours. Il y a des jours où c'est là-haut, c'est waouh, ça. C'est le terrain de tennis, quoi. On se bat, quoi. Mais il faut se battre. Pourquoi ? Petit à petit, Jésus va, il va prendre, en acceptant de dire à Jésus, Jésus, je t'aime, je laisse partir mon esprit, Jésus, je t'aime, ça repart dans l'autre sens, Jésus, je t'aime. Jésus va prendre la place des Jésus, je t'aime que vous lui dites. Il va mystérieusement prendre la place dans votre tête, hein, dans votre esprit. C'est lui qui nous a fait, on est à lui. Aucune de nos cellules ne lui échappe. Donc il peut, et c'est ce qu'il veut, hein, c'est rentrer en nous. Hein. Sinon, pourquoi l'Eucharistie, il s'est donné à manger. Si ce n'était pas pour nous transformer dans notre chair. Qu'est-ce que c'est que les miracles quand il y a un boiteux qui repart en laissant sa canne par terre, si ce n'est qu'il a été touché, il nous a touché dans notre chair. Hein. Donc, un autre exemple, quand vous dites à votre ange gardien, fais-moi penser à mon heure de présence, vous posez un acte de foi. Et au moment que au moment de l'heure de présence qui est la vôtre et qui va sonner, vous avez dans votre tête, c'est arrivé, je suis sûre, ça vous est déjà arrivé, tac, ah, c'est mon heure de présence, je regarde, ah, c'est l'heure. Donc, l'ange gardien, qui est une manifestation de Dieu, une continuité en tout cas, eh bien, vous donne à votre esprit l'attention de l'heure de présence. Donc, il peut bien dire quelque chose dans notre tête. Donc quand on va déposer à l'horizon ses pensées inutiles, ses soucis et dire à chaque fois Jésus je t'aime, il prendra petit à petit la place. Et petit à petit, vous aurez la paix dans votre tête. Vous allez prendre une distance, celle que vous aurez donnée à Jésus, de vos soucis. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec les gros cailloux, l'exemple qui était donné par le cardinal Sarah dans son livre, les gros cailloux, vous aurez donc plus, on va dire, à l'intérieur de votre être, la présence du Christ, donc vous serez plus léger. Les activités qui suivront votre raison se feront avec plus de facilité. Voilà. Les gens qui sont, on va dire, en dépression parce qu'ils sont tout le temps... C'est quoi la dépression? Même si je ne juge pas cette maladie, attention. Eh bien, on est tourné vers soi. La preuve, c'est que souvent, ces personnes-là sont prostrées sur elles. Hein. On est tourné vers soi. Souvent, quand on est en dépression, on est extrêmement fatigué. Hein. Quand on sort d'une oraison, ou même si on s'est battu, voilà, il s'est donné, si vous voulez. Et petit à petit, il y a cette légèreté intérieure qui nous donne, du coup, d'abattre le travail plus facilement, hein, avec une plus grande légèreté. Ce qui fait que même si on a enlevé quelque chose de notre emploi du temps, on n'est pas non plus à courir. Combien de personnes qu'on voit, hein, qui partent dans les futilités sont toujours en retard partout. C'est pas parce qu'elles ne regardent pas leur montre. Hein. C'est qu'on est dispersé. Et aujourd'hui, ça, il y en a un qui sait bien s'amuser avec ça. En tout cas, il sait bien nous amuser avec ça. Il nous disperse. Alors que si on se concentre sur l'oraison du matin, Jésus va nous centrer sur lui. Et du coup, tout ce qui va faire notre journée, on sera moins dispersé dans notre tête. Et ça, alors c'est sûr, bon, moi je suis religieuse depuis un certain temps, mais c'est sûr que je bénéficie beaucoup des fruits de l'horizon, du travail qui a été mis en place. Mais je dirais au bout de 6 mois, on va dire, je m'assure, au bout de 6 mois d'oraison, je suis sûre que vous verrez un changement physique dans votre fonctionnement. Vous sentirez que je ne peux plus m'en passer. Ça reste toujours difficile. Hein, puis peut-être que ça restera pas difficile. Mais je bénéficie d'un bienfait. Hein, voilà. Alors juste un petit mot, à moins qu'il y ait des questions. Je vais terminer là-dessus. Notre Sainte Mère, hein, elle, dans son traité, parle aussi de la mortification. Alors aujourd'hui, c'est un mot qu'on a un peu de mal à entendre, mais par contre pendant le carême, bon, il est quand même, il faut le sortir, il est quand même, il va avec le temps liturgique, je trouve. Donc mortification, c'est quoi? C'est mourir à soi. Hein. Donc c'est comment dire, on meurt pas à soi pour mourir à soi, parce que ça c'est justement c'est la mort, c'est pas ça. Mourir à soi pour vivre, hein, plus de Dieu, c'est lui faire plus de place. Et du coup elle dit, notre Sainte Mère, que s'il n'y a pas la mortification et l'oraison, donc elle y voit comme deux ailes de la colombe, et ce sont deux ailes qui vont vous parler, les deux ailes de la colombe pour aller se réfugier, se blottir dans le creux du rocher, dans le cœur de Jésus. Hein. Alors nous, à ses visitandines, à ses filles, elle nous dit que si dans la journée, vous ne vous tenez pas recueilli, c'est-à-dire que vous parlez soit avec la sœur ou soit vous parlez avec vous-même, quand vous allez arriver à l'oraison, bah c'est sûr que tout va remonter. Donc, d'où, et je reviens à l'oraison continuelle, quand même dans le monde, c'est sûr que si toute votre journée, vous alimentez, en plus de vos soucis, là, tout ce qu'on vient de parler, vous êtes en permanence sur Internet, vous êtes, quand vous vous déplacez, vous regardez partout, vous vous remplissez d'images. C'est sûr que quand vous allez arriver le soir chez vous, vous risquez d'avoir, en somme, la mortification des sens ne sera pas mise en place. Ça sera beaucoup plus difficile. Et c'est pas le fait d'aller vous coucher qui va calmer. Hein. Le lendemain matin, quand vous allez vous relever, vous serez habité de tout ça. Hein. Alors, C'est sûr que, bon, moi c'est des conseils, hein, je n'ai pas dit qu'il fallait mettre ça en place, mais en tout cas je vous y exhorte, c'est quand vous circulez dans la ville, nous, en tant que visitants d'Inde, alors on sort que pour les médecins et aller voter. Alors comme disait un monsieur qui rendait un service, je lui disais, il me dit, c'est grand chez vous. Je dis, bah, c'est bien, on ne sort que pour les médecins et voter. Alors vous savez, quand vous avez une bonne santé, vous ne sortez pas souvent. Hein. Donc il faut quand même que derrière, il y ait un espace pour y vivre. Mais ceci dit, quand nous, on vit à l'intérieur, quand on se déplace dans le cloître, on garde la vue baissée. Alors que le cloître, c'est quoi? Donc le préau, c'est la partie centrale, c'est les plantes, on aperçoit le ciel, des fois c'est les oiseaux, il y a un merle qui fait toujours son nid tous les ans dans les sapins. Donc on va dire, on nous demande quand même de garder les yeux baissés. Pourquoi? Pour faciliter le recueillement. Et quand on entend un bruit ou une porte qui s'ouvre, on ne nous demande pas de regarder, tiens, qu'est-ce qui arrive par là? Non, les yeux baissés pour maintenir la présence. Alors quand vous sortez en ville, si on se remplit d'images, tout ça, c'est un manque à la mortification. C'est sûr qu'il faut quand même regarder où on met ses pieds, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut éviter de regarder. Et regardez aujourd'hui, le mot est bien choisi, regardez ce qu'on vous fait regarder. Pourquoi? Pour vous détruire. Voilà. Pour détruire votre vie intérieure. Hein? Enfin, oui, peut-être qu'ils n'y pensent pas. Non, moi, j'y crois pas. Je vous dis, pour moi, tout est bien pensé. Et même pensé depuis bien des années. Ils savent malheureusement ce qu'ils font. Et on dit bien qu'on est quand même dans l'ère de l'image. Aujourd'hui, combien d'animateurs pastoraux disent comment faire pour rejoindre les jeunes? Donc, ils passent par l'image. Aujourd'hui, voilà, vous tenez un discours. On a un prêtre ami qui est chargé, enfin sa congrégation est chargée de l'enseignement, donc ils ont un très très gros lycée. Il le disait au début quand il a commencé à parler aux élèves, hein, donc les catéchisés, voilà, c'était il prenait en tout cas le sens de la, il prenait la voix pour les rejoindre. Les enfants faisaient, voilà, ils s'intéressaient absolument pas à ce qu'il disait. Il a commencé à prendre des images, des films et tout, ça y est, il les a. Hop, captivé. Alors, voilà, et je vais m'arrêter là-dessus. Alors, je terminerai là, ouais, sur ce petit point, c'est-à-dire que pour revenir à l'abîme de la prière, hein, l'abîme de la prière du Christ à son Père, quand, pendant le carême, vous allez être. Parce qu'on avait vu que Sainte Marguerite Marie donnait les abîmes pour permettre à ses novices de venir y puiser, je veux dire, l'antidote, hein, de leur péché, pour pouvoir corriger leur manque de vertu. Donc quand elles ont fait un péché contre l'orgueil, elles leur demandaient d'aller se plonger dans l'amour du cœur de Jésus pour guérir leur amour propre blessé. Pour rester dans cette même logique de l'abîme, eh bien, quand vous êtes ce mois-ci, vous allez être. On va dire attaquer dans votre prière. Ça veut dire, voilà, telle réflexion me trouble, j'ai vu telle chose qui m'a troublée, je me sens pas en paix. Il y a deux réflexes. Soit on appelle un ami et puis on se décharge. Voilà. On déballe. Hein. Et puis, ben, en général, on égratigne le voisin. C'est souvent ce qui se passe. Il faut bien trouver un bouc émissaire, hein, on est tous les mêmes. Hein. On se déculpabilise, quoi, voilà. On essaie de trouver la paix en ayant derrière, il y a une démarche psychologique, hein, qui est pas mal en soi, on peut en avoir besoin, mais avec l'histoire de la vie, moi je vous propose, quand vous, en tout cas ce mois-ci, vous allez trouver voilà, un certain mal-être, un certain trouble intérieur, je vous invite à justement fermer la porte sur vous et à aller voir Jésus. Vous abîmez dans le cœur de Jésus qui est la prière. Ça veut dire prendre 20 minutes d'horizon pour couper court à ce discours intérieur, voilà, à ce trouble. D'où vient le trouble? Et quand vous allez avoir remonté d'où vient ce trouble, ah, c'est telle parole qui me blesse. Ben, Jésus, tu la veux, la parole, je la veux aussi. Et là, je vous assure, en général, Jésus prend la place. Et c'est ça la sainteté, hein. C'est avancer dans la connaissance de soi et la sainteté, c'est se laisser revêtir par le Christ, changer par le Christ. Voilà. Donc si on ne voit pas d'où vient justement le trouble, on ne peut pas changer. Donc quand j'ai un trouble, je vais m'abîmer dans le cœur de Jésus pour y prendre l'antidote, ça veut dire sa lumière à lui, mais pas la mienne, et pas celle de la voisine que je vais, ou de la copine, ou du copain, ou même du film vidéo, parce que beaucoup vont sur Internet pour, on va dire, pour faire diversion. C'est pas un mal en soi, se divertir. C'est utilisé dans la vie spirituelle. Moi, je dis souvent, je dis à mes, parce que je suis maîtresse de novice, quittez vos têtes, passez par un autre sens. Donc, le travail, on va dire, manuel est très présent dans la vie contemplative. D'aller travailler la terre aide à quitter sa tête. Et c'est équilibrant. Hein. Nous, si on a autant d'heures de silence et de prière, on a aussi beaucoup d'heures de travail manuel qui équilibrent l'un et l'autre. Donc, divertir, quitter sa tête, se divertir en allant parler à Jésus. Voilà. Et pas se divertir par Internet ou pour aller regarder une belle chose. C'est certes un divertissement, mais qui ne va pas aboutir à une connaissance de soi. Et la grâce de l'oraison, c'est se connaître. En plus, enfin, on est gagnant parce que c'est se connaître soi tout en ne privant pas Jésus de sa présence. Donc là, on est dans la démarche de la conversion ou du carême. Voilà ce que je voulais. Alors j'espère ne pas avoir... je sais que c'est un sujet que j'avais déjà pris, mais je pense que c'est bien qu'on garde justement à l'esprit que voilà, si un jour vous posez une question, eh ben de cette manière on en fait bénéficier. Enfin, finalement, on me la donne avant pour que je puisse la travailler, et on en fait bénéficier comme ça tout le monde. Et c'est un sas pour se poser les questions, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas toujours où trouver nos réponses. Et Internet, je suis désolée, je reviens souvent, mais il s'y trouve de bonnes choses. On travaille aussi avec Internet, mais il s'y trouve tout, et du vrai et du faux. Et malheureusement, on n'a pas toujours les moyens de savoir si c'est vrai. Hein. Donc des fois c'est bien d'aller ouvrir un bon livre des pères de l'Église qui nous ont engendrés dans la foi, et c'est ça les pères de l'Église, hein, c'est, ils nous ont engendrés dans la foi, et là on a des conseils sur la vie spirituelle qu'on trouve certes des fois sur Internet, mais pas toujours, hein, ou des fois de mélanger avec d'autres choses. Voilà, alors je reconfie à votre prière donc ce jeune séminariste qui s'appelle David, et puis les gardes d'honneur qui sont malades, et entre autres une personne qui devait venir à la formation et qui est retenue pour chez elle par sa santé, et de prendre tous ces gardes d'honneur qui sont éprouvés dans leur santé. Voilà, on va terminer par la prière. Donc vous retrouvez encore les petits tracts, hein, si vous voulez faire connaître la garde d'honneur autour de vous. On prie un Ave Maria, puis on termine par les invocations. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cœur sacré de Jésus, Notre-Dame du Sacré-Cœur, Saint-Joseph, Saint-Jean, Saint-François de Sales et Sainte-Jeanne de Chantal, Saint-François d'Assise et Sainte-Marguerite-Marie, Bienheureuse Marie de Jésus de l'huile Martini, Bienheureuse Maria Gabriella et ses compagnes, Sœur Marie du Sacré-Cœur Bernot. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous souhaite un bon carême, un saint et joyeux carême pour faire sa joie. Hein, voilà. Et puis, le 27 février, vous avez l'entrée au ciel de Sœur la Bienheureuse Marie de Jésus de l'huile Martini, qui est aussi la première zélatrice, hein, la cheville ouvrière de Sœur Marie du Sacré-Cœur Bernot, qui a beaucoup, beaucoup fait, c'est la première, et qui a fondé, du coup, les filles du cœur de Jésus, les sœurs de la Serviane. Voilà, bon retour. Voilà, je suis à votre disposition s'il y a des questions. Merci pour tout.